Cette émission vous est présentée par OM3, la marque spécialiste des compléments alimentaires riche en oméga 3.
Mieux dans ton sport. Alban Colo sur Nutri Radio.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Alban, comment allez-vous cette semaine?
Bonjour Virginie, écoute, ça va très très bien.
Bon, nous allons aborder avec vous cette semaine un problème qui touche de nombreuses femmes et qui souffrent de cette pathologie, l'endométriose. Alors pour cela, vous êtes accompagnée aujourd'hui d'une invitée, Garance Néjon. Bonjour à vous Garance.
Bonjour Virginie, bonjour Alban.
Alors Garance Néjon, vous êtes diététicienne et à ce titre, vous allez nous expliquer un certain nombre de choses sur cette pathologie. Alors Alban, je vous laisse faire les présentations, je vous en prie.
Merci Virginie. Bonjour, bonjour Garance, je te reçois dans cette émission pour que tu nous parles bien de ton expérience dans le suivi des femmes qui souffrent d'endométriose et puis notamment faire un focus sur ce que cette pathologie va avoir comme conséquence sur la pratique sportive, mais aussi ce que l'activité physique va pouvoir avoir comme bénéfice sur la maladie. Mais d'abord, est-ce que peut-être tu peux nous en dire un petit peu plus et te présenter, Garance?
Tout d'abord, merci de me recevoir dans cette émission. Et pour me présenter, donc je suis diététicienne depuis 5 ans. J'ai continué de me former donc avec une licence, un diplôme universitaire de micronutrition, mais aussi une formation en diététique psychocomportementale, en hormonaux. Et puis là, j'ai pour objectif de me former en méthode d'observation du cycle. Voilà, donc je suis passionnée par la nutrition, par le sport aussi, j'en pratique moi-même. Et je suis installée en libéral en région parisienne. J'ai beaucoup orienté ma pratique vers les troubles féminins, mais pas que, notamment l'endométriose tout de même, car je fais partie du réseau Ville-Hôpital du Résendo. Voilà pour la présentation.
Ok, super, merci. Tu peux nous dire ce qu'est l'endométriose pour nos auditeurs ?
Tout à fait. Alors, je vais essayer d'être assez brève et simple. En fait, l'endométriose, c'est une pathologie gynécologique chronique. Donc, c'est-à-dire qu'elle va commencer dès le début des menstruations et s'arrêter à la ménopause. Pourquoi ? Parce qu'elle est dépendante des œstrogènes et c'est une maladie qui est inflammatoire. Donc, ce qui va se passer globalement, c'est qu'on va avoir du tissu qui est semblable à celui de l'endomètre qui va se développer en dehors de l'utérus et générer une réaction inflammatoire entraînant les symptômes associés. Il faut quand même dire que l'endométriose touche environ une femme sur 10. Donc, dans notre entourage, on connaît sans doute tous et toutes. Ouais, c'est vraiment énorme, hein ? On connaît tous quelqu'un qui est atteint d'endométriose. Seulement, le diagnostic est très long. On estime entre 7 à 10 ans. Ça aussi, c'est énorme.
Ok. Okay. Et ça fait maintenant quelques années qu'on entend parler de cette maladie, qu'on ne posait pas forcément de mots sur la maladie avant. C'est parce que ça n'existait pas ou c'est parce que les recherches n'avaient pas suffisamment avancé ou peut-être que c'est d'autres raisons. Tu sais nous en dire un peu plus là-dessus?
Oui, alors c'est surtout que les douleurs lors des règles, ça n'a pas toujours été pris très au sérieux. C'est-à-dire qu'on sait que c'est quelque chose qui remonte à très longtemps. Et aujourd'hui, même encore, hein, j'entends toujours des femmes qui me disent « on m'a dit que c'était normal d'avoir des douleurs, de s'évanouir lors des règles. » Et que ce soit du corps médical ou d'autres personnes. Donc, en fait, il y a de plus en plus d'études aujourd'hui, bien sûr. Mais en dehors de ça, il y a quand même une non-prise en considération de la santé de la femme.
Tu peux nous parler un peu des causes de cette maladie? Je sais que ça reste encore, il reste encore pas mal de zones d'ombre, mais est-ce qu'on a des pistes? Est-ce que tu peux développer?
Oui, tout à fait. Alors, en fait, il faut savoir qu'il y a une première théorie donc, qui date quand même d'environ 1921. C'est assez ancien.
Okay.
Bon, on l'appelle la théorie de Samson, donc des flux rétrogrades. Mais c'est très vieux et en fait, ça expliquait qu'il y a des flux qui vont faire qu'on va avoir du sang qui va passer par les trompes et libérer des tissus d'endomètre. Sauf qu'en fait, ces flux rétrogrades, environ 90% des femmes en ont. Sauf que, 90% des femmes ne déclarent pas une endométriose. Donc, cette théorie ne peut pas tout expliquer. Et en fait, ce qu'on sait, c'est que c'est multifactoriel. Donc, chaque femme qui a une endométriose, ça pourrait être des causes différentes. À noter quand même l'hérédité, qui serait présente quand même dans 50% des cas. Donc, il y a un facteur génétique, mais aussi des facteurs épigénétiques. Donc, l'exposition aux perturbateurs endocriniens, le mode de vie, et puis une faiblesse immunitaire qui serait aussi en cause dans l'endométriose. Donc, ce n'est pas si simple.
Très bien, on va rentrer un petit peu dans ces détails justement. Garance et Alban, avant d'aller plus loin, je vous propose cette petite pause musicale qu'on a régulièrement avant de parler justement des symptômes et autres problématiques. On se retrouve dans quelques instants. Alors j'en profite également pour vous signaler que si vous avez envie de réagir ou de poser des questions à Garance Neigeant ou à Alban, notre préparateur physique et diététicien, vous pouvez le faire au 06 66 94 59 02 ou directement sur la page de contact du site nutriradio.fr.
Les oméga-3 sont indispensables au développement et au fonctionnement du corps. Alors pour vous supplémenter, autant prendre la meilleure des qualités. OM3, votre spécialiste des compléments alimentaires riches en oméga-3 formulés à base d'huile de poisson sauvage purifiée. OM3, des oméga-3 à la biodisponibilité optimale et certifié Friend of the Sea. Le DHA contribue au fonctionnement normal du cerveau et au maintien d'une vision normale. L'EPA contribue à une fonction cardiaque normale. Plus d'infos sur om3.fr. Pour votre santé, bougez plus.
Mieux dans ton sport. Alban Colo sur Nutri Radio.
Vous êtes sur Nutri Radio, la radio qui nourrit le corps et l'esprit. Nous sommes avec Alban, notre préparateur physique, et son invité, Garance Neigeant, diététicienne. Notre thème du jour, l'endométriose. Alors, votre question, Alban. Vos questions, Alban.
Oui, est-ce que la maladie va apparaître dès les premières règles chez l'adolescente ou c'est quelque chose qui va apparaître un peu plus tardivement ça va même dépendre des femmes, plus apparaître au niveau de la vingtaine. Est-ce qu'on en sait un peu plus là-dessus ou
ça va
varier souvent?
Mmh, tout à fait. Alors en fait, dans ma patientèle, mais même de manière générale, ce qu'on peut constater, c'est que autant il y a des femmes pour qui ça va débuter dès les premières règles, autant d'autres femmes, ça va se manifester bien plus tard. Mais il faut quand même prendre en compte l'idée que souvent, les femmes commencent à prendre la pilule contraceptive assez tôt. Donc on va avoir des femmes qui vont la prendre à 14, 15 ans, enfin des jeunes filles du coup 16 ans, etc. Et en fait, ça va potentiellement masqué parce qu'on aura du coup les œstrogènes qui vont être mis sous silence. Et donc souvent, c'est à l'arrêt de la pilule que les symptômes vont pouvoir commencer à se manifester, que ce soit pour un projet de grossesse ou juste un arrêt de pilule pour d'autres raisons. Donc c'est très variable finalement.
C'est vrai que la pilule, c'est des règles programmées. Donc du coup, ça change forcément nos cycles biologiques de toute manière.
Alors, ce sont même pas. En fait, on peut même pas appeler vraiment ça des règles parce qu'il n'y a pas d'ovulation, donc ça sera plutôt des saignements. Mmh. Et donc, ça n'aura pas forcément en lien avec des vraies règles, comme si on n'était pas sous pilule. Donc, complètement, finalement, ça sera complètement différent. Et donc, il n'y aura pas forcément ces symptômes qu'on va retrouver caractéristiques dans l'endométriose.
Mais il n'y a pas de lien entre prise de pilule et apparition de l'endométriose.
Alors, non, justement, la pilule contraceptive est souvent, en tout cas, un des traitements proposés. Alors, ce qui peut se passer, c'est que du coup, des petites filles qui ont, des jeunes femmes qui ont des douleurs de règles, on leur donne la pilule en leur disant que ça va les régler, et ensuite, plus tard, ça réapparaît. Donc, en fait, là, on masque un petit peu le problème, finalement, mais sans forcément l'accentuer.
Ok, d'accord. Et à partir de quel moment ou de combien de symptômes, il faut se dire, ça serait bien d'aller voir un médecin et d'investiguer un peu plus?
Alors là, clairement, s'il y a quelque chose à retenir, c'est que juste sur le symptôme de la douleur pendant les règles, ça serait intéressant d'en parler à son médecin. Juste ce symptôme-là.
D'accord.
C'est pas normal, okay. C'est pas dans la tête, tout d'abord. Ensuite, je sais pas si tu connais Alban, il y a les 6D. Donc, c'est un ensemble de symptômes caractéristiques de l'endométriose. Donc, je peux les citer. On va avoir, par exemple, les dysménorrhées, donc des douleurs pelviennes autour des menstruations, de la dyspareunie, donc là, ce sont des douleurs pendant rapport, pendant la pénétration, par exemple, des dysovulations, donc perturbations des cycles qui ne sont pas réguliers, troubles de la fertilité, qui apparaît aussi souvent dans l'endométriose. D'ailleurs, il y a certaines femmes qui se rendent compte qu'elles ont de l'endométriose parce qu'elles ont du mal à faire un bébé et du coup qui vont faire des recherches un peu plus loin. On va aussi avoir les dyschésies. Alors ça veut dire défécation douloureuse, donc mal quand on va à la selle. Des dysuries, donc là c'est miction douloureuse, c'est-à-dire on va avoir des sensations de brûlure lors des mictions. Et des douleurs pelviennes chroniques, même en dehors des menstruations. Donc ça, ce sont nos 6D. Donc si on a des symptômes comme ça qui se répètent, on doit en parler à son médecin, à sa gynécologue, sage-femme, pour faire des examens complémentaires. Et je rajouterais même qu'on a souvent des troubles du transit associés, assez régulièrement. Donc voilà un petit peu tous les petits symptômes caractéristiques. Exactement.
Okay. Bon, dès l'instant qu'on va avoir des petites choses, des petites douleurs, tout ce qui va tourner autour du petit bassin, ça peut potentiellement être lié à l'endométriose. Okay.
Tout à fait. Après, il faut savoir qu'il y a des femmes qui ont l'endométriose qui déclenchent aucun symptôme. Donc, tant mieux. Voilà, ce sont là. Mais d'un autre côté, ça peut être aussi silencieux et du coup, se réveiller plus tard quand on essaye de procréer justement ou autre.
Ok. Mais par contre, ce n'est pas parce que ça, ce sont des symptômes du syndrome prémenstruel que tu as cité. Ça ne veut pas dire parce qu'on a un symptôme prémenstruel qu'on a forcément l'endométriose.
Pas forcément. Alors voilà, dans le syndrome prémenstruel, avec le fait voilà, d'avoir des troubles du transit accentués à ce moment-là, des troubles de l'humeur, ça ne veut pas forcément dire qu'on a de l'endométriose. Hein. Ça sera surtout les idées voilà, que j'ai citées précédemment avec les douleurs où on pourra se poser plus de questions. Le syndrome prémenstruel trop marqué, par contre, c'est qu'il y a quand même un déséquilibre hormonal qui est quelque part, mais pas forcément de l'endométriose.
Bien sûr. Et quelles sont les raisons qui font que tu t'es spécialisée dans la prise en charge de cette pathologie ?
C'est une bonne question parce que bon, toi aussi tu es diététicien, donc tu le sais, on ne voit pas du tout ça lors du BTS diététique.
Non,
donc,
non.
Voilà, malheureusement.
On est sur notre formation qui est une bonne formation de base, mais qui mériterait d'avoir quelques petits modules supplémentaires.
Il y a un petit manque. Là.
Carrément. C'est pas mal. Ah mais complètement, enfin voilà, il y a vraiment un manque, donc l'idée c'est de se former en continu, bah, comme on l'a fait tous les deux de notre côté, mais pourquoi ça? Alors parce que déjà quand j'étais en stagiaire en tant que diététicienne, je me rappellerai toujours, j'ai vu à l'hôpital une femme qui était atteinte d'endométriose, et en fait j'ai posé la question, mais est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose avec la nutrition à ma maître de stage? Et elle m'a répondu non, enfin voilà, et... Je suis un peu restée sur ma faim parce que je me suis dit quand même avec la nutrition, je sais qu'on peut faire beaucoup de choses. Puis ça s'est arrêté là. Et en fait, c'est lors du diplôme universitaire de micronutrition, on a eu un cours avec un super gynécologue qui s'appelle docteur Damien Bourgonjon et qui nous a parlé d'endométriose. Ça m'a passionnée de me dire en fait voilà, on peut être vraiment un soin de support pour ces femmes. Et en fait, les planètes se sont alignées parce qu'après, j'ai rencontré Vanessa Gouillot, qui est une diététicienne spécialisée dans l'endométriose, qui est vraiment à l'initiative aussi de l'aspect nutrition dans le raisin d'eau. Et je l'ai remplacée pour son congé maternité. Donc, de fil en aiguille, en fait, je suis venue à me spécialiser dedans.
Ok, ça marche très bien, merci. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi notre assiette va influencer l'apparition et le développement de la maladie, ou également... d'avoir des petits tips qui vont pouvoir améliorer ou en tout cas atténuer un petit peu les symptômes de cette maladie.
Alors là, il y a deux sujets que tu as cités. Donc, sur l'apparition et le développement de la maladie, c'est un premier sujet. Donc, il faut savoir qu'il y a des études, mais il est difficile de faire le lien entre corrélation et causalité. On parlera plutôt d'association statistique. Donc, l'idée, c'est de se dire, voilà, il y a certains aliments qui... potentiellement, oui, pourrait accentuer le risque de développer une endométriose, donc notamment un excès, donc on parle toujours d'excès, hein, un excès de consommation de viande rouge, qu'elle soit transformée ou non transformée, une alimentation trop riche en graisses saturées, notamment l'acide palmitique, qu'on connaît bien dans l'huile de palme, par exemple, mais pas que, de graisses hydrogénées, donc ça, on peut essayer de regarder un petit peu en lisant les étiquettes, de caféine, d'aliments ultra transformés, et inversement, par contre, une consommation trop basse, trop faible en fruits et en légumes et réduite en oméga 3 pourrait aussi favoriser l'apparition de l'endométriose. Okay. Pour les produits laitiers, c'est plus mitigé. Il y a des études qui disent que non, que c'est plutôt protecteur, d'autres qui disent que oui, donc assez mitigé. Ça, c'est vraiment sur l'influence et l'apparition de l'apparition du développement de la maladie. Maintenant, la deuxième question sur justement comment on pourrait essayer d'apporter, d'aider en tout cas en soins de support avec l'alimentation pour les symptômes, là du coup ça sera en apportant certains aliments précurseurs de molécules, notamment de molécules comme les oméga 3 à longue chaîne, donc le PA, le DHA, exactement, donc via les petits poissons gras, les œufs de la filière bleu-blanc-cœur par exemple, mais aussi les précurseurs, donc via des huiles, comme l'huile de colza, de noix, de chanvre, etc. On aura aussi, bien évidemment, donc il a été aussi bien démontré dans certaines études, l'intérêt des antioxydants, Donc, le resveratrol, les pygallocatéchingalates dans le thé vert, tous les antioxydants donc, dans les fruits et légumes, la vitamine C, la vitamine E, donc vraiment une alimentation diversifiée de ce côté-là. Des féculents à charge glycémique plutôt moyenne. Et puis, d'une autre part, limiter les aliments ou les substances qui pourraient accentuer les symptômes. Donc, comme l'alcool, par exemple. On va aussi avoir, en fonction de la tolérance, la modulation au niveau du gluten, des produits laitiers toujours en fonction de la tolérance, et puis les excès de viande rouge, de graisse saturée, etc. Et puis, il faudra aussi qu'on fasse attention aux perturbateurs endocriniens. Dans certains sont des xéno-œstrogènes. Donc voilà, il y aura vraiment toute une éducation alimentaire à faire de ce côté-là, et on peut avoir des bons impacts.
Manger dans des tupperwares en verre et pas des tupperwares en plastique, s'il vous plaît.
Exactement, merci. Complètement.
Est-ce que tu peux nous parler un peu des bénéfices de l'activité physique sur cette pathologie ?
Oui, et là, il y en a beaucoup. Donc, notamment, alors,
il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, pardon, il y en a beaucoup, j'entends. Nous sommes à 16 minutes d'émission, il y en a beaucoup.
Ah oui, pardon, je vais être brève.
Non, mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, c'est intéressant.
Pardon. Alors, notamment le fait que ça va nous permettre de limiter les adhérences entre les tissus. Donc, en mobilisant les tendons, les ligaments, les muscles, on va pouvoir donner plus de mobilité là où parfois justement l'endométriose restreint de ce côté-là. Ça va aussi permettre de générer des endomorphines, donc pour tout ce qui va être la douleur, donc très intéressant. Et puis, sans parler de la gestion du stress qui a un impact sur tous les symptômes. Voilà, donc ça, ce sont vraiment les avantages principaux. Et puis, l'activité physique peut aussi moduler le microbiote intestinal en faveur de certaines bactéries justement bénéfiques, et puis générer parfois des molécules plutôt anti-inflammatoires, comme certains leucocytes, le cortisol, l'adrénaline, etc. Donc, pratiquer une activité physique, c'est aussi un soin de support pour cette maladie.
Ok. Après, je pense qu'il faut moduler aussi son intensité et pas toujours faire des séances où on se retrouve dans le rouge, etc., peut-être.
Carrément, on est d'accord.
Varier, cardio, haute intensité, de la basse intensité, mais pas toujours faire du HIIT ou ce genre de choses où on finit en vrac, si je peux me permettre, à la fin de chaque séance.
Ça peut peut-être
pas aller dans le sens...
Je suis complètement d'accord avec toi. L'idée, c'est quand même aussi de limiter le stress oxydant et puis de pas avoir mal. Il y a déjà des douleurs qui sont présentes. Donc, toutes les activités déjà douces comme le pilates ou le yoga ou la gym, même ne serait-ce que l'activité physique, que le NEAT, la marche, etc., peuvent être bénéfiques.
C'est là, moi, où c'est vraiment un défi un peu pour moi avec mes patientes où souvent, elles vont faire beaucoup de sport à haute intensité parce que ça leur libère la tête et ça libère aussi des endorphines, etc. Mais elles comprennent pas forcément toujours et qu'il y a vraiment un travail d'éducation où on doit leur expliquer que c'est bien aussi d'aller marcher dans la nature, juste être en aisance respiratoire. Ça va être bénéfique pour limiter les symptômes de l'endométriose. Et ça, c'est un vrai défi parce que la haute intensité, c'est un peu addictif parfois.
C'est vrai, complètement. Et sans oublier que la haute intensité et l'activité physique trop intense peut impacter notre barrière intestinale et donc générer d'autant plus d'inflammation. Donc, je suis d'accord avec toi, il y a un vrai travail d'éducation à faire là-dessus.
Ok.
Oui, pardon. Il y avait encore une petite question avant la pause, Alban. J'ai senti qu'il y avait une hésitation et hop, j'ai failli m'infiltrer, mais je me suis dit, allez, laissons cette dernière question avant, même si nous sommes à 2 minutes de la fin, mais c'est pas grave, on débordera, c'est pas grave.
Glucides pendant l'effort, est-ce que tu penses que ça a un bénéfice sur les symptômes de cette pathologie ? Ce que j'entends glucides pendant l'effort, c'est d'avoir une boisson d'effort avec soi. On sait que les glucides ont un rôle sur l'immunité, même post-séance, pour justement faire en sorte qu'il n'y ait pas cette fenêtre ouverte sur potentiellement les infections. Est-ce que ça peut aussi limiter l'inflammation ? Est-ce qu'il y a des choses là-dessus ou pas du tout
Alors, en fait, ça peut être intéressant, seulement ça va dépendre de l'intensité, de la durée de l'effort. C'est-à-dire faire une boisson d'effort avec beaucoup de glucides pour un court effort où on aura déjà nos stocks de glycogène qui vont permettre d'apporter les glucides.
Bien sûr.
Voilà, il n'y aura pas forcément nécessité. Après un long effort, voilà, une longue course, etc., oui, ça peut être toujours intéressant, mais avant toute chose, pour optimiser l'hydratation.
Ok. Dans mes suivis, j'ai beaucoup de sportives qui pratiquent le crossfit et certaines ont l'endométriose. Dans ma prise en charge, je vais essayer toujours de soutenir un peu les fonctions de détoxification du foie, si je remarque des symptômes, bien sûr.
Oui.
Parce que le foie, c'est un organe qui est important chez le sportif et est souvent mis à mal lors d'entraînements répétés à haute intensité. Est-ce qu'il y a des points particuliers à faire plus attention sur ce genre de personnes ou pas du tout?
Oui, tout à fait. Alors, tu as complètement raison. Le foie, en effet, et puis, je l'ai un peu dit précédemment, mais la barrière intestinale. C'est vraiment quelque chose de très important à travailler. Donc, ça peut être via la micronutrition, mais aussi via la préserver tout simplement. Parce qu'en fait, on va avoir un impact sur notre barrière intestinale. Et comme il y a déjà souvent un syndrome d'intestin irritable qui est associé, ça va être un point d'attention très particulier. En n'oubliant pas que l'activité physique peut aussi générer du stress oxydatif, qui est aussi en cause de l'endométriose. Donc, bien apporter des antioxydants, optimiser tout ce côté-là.
On peut se passer de la case opération ?
Oui, bien sûr, tout à fait. C'est vraiment pas quelque chose qui est en premier lieu. L'opération, ça va être vraiment s'il y a des échecs via l'hormonothérapie, les soins de support, et si ça peut augmenter la qualité de vie de la patiente.
Je vous propose une dernière petite pause, Alban et Garance, parce que vous êtes partis sur la piste d'envol de l'endométriose. Donc je vous propose cette dernière petite pause avant de conclure sur cette émission, parce qu'il y a encore quelques questions. Et on se retrouve juste après pour évoquer notamment le point de vue micronutritionnel aussi. À tout de suite.
Mieux dans ton sport, Alban Colo sur Nutri Radio.
De retour sur Nutri Radio, la radio qui nourrit le corps et l'esprit, nous évoquons aujourd'hui ce sujet fort difficile, l'endométriose, avec Alban et Garance Néjon, qui je le rappelle est diététicienne. Pardon. Donc Alban, je vous laisse poursuivre sur cette micronutrition.
D'un point de vue micronutritionnel, peux-tu nous dire, Garance, s'il y a certaines choses qui pourraient avoir un impact positif sur la prise en charge de l'endométriose ?
Oui, tout à fait. Et alors sur ça, en plus, on a des revues, on a de la littérature, notamment une revue parue en 2022, qui nous fait un point complet sur les suppléments pour l'endométriose et les micronutriments qui pourraient avoir un impact positif. Donc on va en avoir un qui est très important, qui est la vitamine D, où en fait on a aussi vu que les femmes qui avaient de l'endométriose étaient encore plus sujettes à un déficit. Et la vitamine D a des fonctions immunorégulatoires, qui vont aussi jouer dans l'inflammation, donc c'est vraiment moi un micronutriment que j'utilise à chaque fois. Après on va avoir nos fameuses EPA, DHA, donc nos oméga-3 à longue chaîne, et puis on aura aussi qui va être la curcumine, donc une molécule issue du curcuma, et puis les antioxydants de manière générale, comme on a cité un petit peu tout à l'heure, resveratrol, tous les bêta-caroténoïdes, les lycopènes, les vitamines C et E qui sont des vitamines antioxydantes. On aura aussi le zinc, donc qui est un micronutriment très important et qui est souvent déficitaire de toute façon. L'alimentation a du mal à couvrir nos besoins en zinc. Et puis le magnésium. Le magnésium qui, en plus de ça, va justement jouer sur la contraction musculaire et pourrait aussi améliorer les douleurs pelviennes. Donc on aura vraiment un ensemble de micronutriments qui vont être très très importants à utiliser et qui sont quand même, qui ont fait sujet d'études directement.
Merci beaucoup Garance. Est-ce que tu as des choses à ajouter, par exemple une lecture pour nos auditeurs, à nous conseiller sur le sujet ?
Oui, tout à fait. Et juste pour terminer, donc, je tiens à dire qu'il y a la nutrition, mais aussi tous les autres soins de support, la kinésithérapie, la sophrologie, la sexologie. Enfin, voilà, il y a tout un ensemble de soins de support et donc un travail en pluridisciplinarité. Et en termes de lecture, donc, il y a plusieurs livres évidemment sur le sujet, mais notamment celui de Fabien Piasco, donc, sur l'alimentation anti-endométriose. Et puis le livre aussi de Guenel Abbé-Guillé sur les troubles hormonaux, qui traite de l'endométriose, mais aussi du SPM, du SOPK, enfin voilà, de plein d'autres troubles hormonaux. Donc c'est vraiment deux lectures très sympathiques que je vous encourage à lire.
Ce sera le mot de la fin.
Avec plaisir.
Merci à vous, Alban et Garance Néjon, pour vos explications sur l'endométriose. Ça permet d'ouvrir nos connaissances sur cette pathologie mal vécue et parfois difficile à exprimer. Alors Garance, vous parliez du fait que ça remontait déjà il y a quelques années, mais c'est vrai que j'ai vu en préparant l'émission que pour la première fois, ça avait été observé en 1860. Et finalement, ce n'est qu'en septembre 2020 qu'elle entre dans le programme des études de médecine. Et la Fondation pour la recherche médicale entend ne pas attendre encore 160 ans de plus pour que des moyens soient donnés à la recherche. Et c'est vrai qu'il serait quand même temps de se réveiller, mais ça progresse quand même, on dira.
Tout à fait, et puis merci à vous de proposer ces sujets-là pour justement toucher un maximum de personnes, c'est important.
Tout à fait.
Le fait d'en alors, parler, effectivement, ça fait bouger.
Oui, absolument. Alors, on se retrouve justement tous les trois la semaine prochaine, hein, puisque vous revenez, Garance, exactement, avec Alban, sur un autre sujet que vous aviez déjà un peu traité, Alban, sur Nutri Radio, le RETS. Je ne sais pas si on prononce comme ça, d'ailleurs. Moi, je le prononce comme ça, le RETS. Bon. Un concept clinique.
Moi, je dis REDS. Je ne sais pas comment tu REDS. Dis, Garance, toi, mais...
Oui, je dis comme toi, Albin, je dis REDS aussi.
Voilà, allons-y pour le REDS. Donc, un concept clinique qui élargit la compréhension des troubles du comportement alimentaire, du cycle menstruel et de la minéralisation osseuse chez les femmes. Donc, merci à vous et on se dit à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Merci.
Merci beaucoup d'aider notre corps à être mieux dans notre sport. Et donc, à la semaine prochaine. Et si vous aviez le souhait de réécouter cette émission, vous pouvez sur le site nutriradio.fr et sachez qu'elle sera diffusée dans son intégralité dimanche à 18h sur nutriradio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio.
Mieux dans ton sport. Alban Colo sur Nutri Radio.